Il y a des gens qui disent « Ah, moi, il faut absolument que je mange le matin. C'est pas possible de commencer la journée sans avoir mangé quelque chose. Je suis incapable de rien faire et puis, de toute façon, je suis infecte. Il me faut de la nourriture, c'est biologique, c'est mon corps qui le réclame. » Et à l'inverse, connaît tous des gens qui sont incapables de rien avaler le matin, qui disent « Moi, je ne peux rien manger, ça me met malade, ça me donne la nausée. »
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Au quotidien, notre vie est rythmée par des moments dédiés à l'ingestion d'aliments. Ces plages horaires plus ou moins fixes, plus ou moins réguliers, que chacun s'octroie. Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner. Mais dans cette liste, il y a un repas qui obéit à beaucoup moins de règles que les autres, le petit déjeuner. Déjà parce que certains n'en prennent tout simplement jamais quand d'autres ne pourraient envisager de démarrer leur journée le ventre vide. Ensuite, parce qu'il y a celles et ceux qui ritualisent ce qu'ils mangent, tartines beurrées, yaourts, fruits, céréales, boissons chaudes, quand d'autres avalent tout juste un café. Alors que les autres repas de la journée peuvent à peu près correspondre à des comportements partagés, comment expliquer le flou qu'il y a derrière le petit déjeuner? D'où peut venir ce grand différentiel d'attitude face au premier repas de la journée, souvent décrit comme le plus important? Dans cet épisode, je m'entoure de la chercheuse en sociologie Marie Pless, qui a étudié le moment du petit déjeuner sous l'angle de la classe sociale. Avec elle, nous allons voir à quel point le petit déjeuner est un enjeu de respectabilité parentale pour beaucoup de foyers et dans quelle mesure le rythme alimentaire dépend de la vie professionnelle, mais aussi d'enjeux d'intégration et de distinction sociale. Parce que, il faut le reconnaître, que nous prenions un petit déjeuner ou pas, il est souvent tentant de penser que ce choix se fait par goût ou en adéquation avec ce que notre organisme nous demande. Mais Marie Pless explique que ces pratiques alimentaires sont aussi le fruit d'une transmission et d'une attitude face à la norme. Cette fameuse norme, largement diffusée par les discours sanitaires et le marketing alimentaire, qui a cherché ces dernières décennies à consolider le moment du petit déjeuner en abreuvant le marché de produits spécifiques au petit déjeuner. Pour commencer, j'ai demandé à Marie Pless de nous expliquer en quoi étudier le premier repas de la journée renseigne autant sur notre société.
Moi, je trouve que le petit déjeuner, c'est un moment vraiment intéressant parce que il nous dit plein de choses, en particulier sur le rythme de l'alimentation et en fait sur le rythme de toutes nos journées et de toute notre société et sur la façon dont nous produisons chacun d'entre nous depuis chez nous de façon en apparence indépendante les uns des autres. Comment nous produisons ce rythme? Donc le rythme social en fait. Ça nous paraît complètement normal à nous en France d'avoir à peu près 3 repas par jour. Je dis à peu près parce qu'il y a des gens qui font un goûter dans l'après-midi. Mais si je vous dis 3 repas par jour, déjà vous savez que je vais vous parler du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. Et ce rythme, il est extrêmement fort dans la société française. Par exemple, les enquêtes emploi du temps de l'INSEE nous disent qu'à 12h30, un Français sur deux est en train de manger. Et ça, c'est le cas depuis les années 80. Et je peux pas vous dire depuis avant, parce qu'avant, on n'avait pas d'enquête emploi du temps où elle n'était pas faite de la même manière. Mais au moins depuis les années 80, et même dans les premières enquêtes emploi du temps des années 68 et 75, on a cette régularité, ce rythme à 12h30. C'est l'heure où le plus de Français sont à table et ça concerne un Français sur deux. Et le soir, de la même manière, le soir, on voit dans ces enquêtes que entre, on va dire, 19h30 et 21h, les Français massivement mangent. Et ce rythme, il pourrait nous paraître à nous Français comme le rythme normal, biologique, c'est le moment où nous avons faim. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce rythme, c'est le résultat d'une construction historique. Petit à petit, depuis le Moyen-Âge, avec un moment important au 19e siècle, au moment où la bourgeoisie essaye de dicter cette idée qu'un ménage bien tenu, c'est un ménage où il y a de l'ordre et où il y a des horaires réguliers. Et ensuite, à la fin du 19e siècle et au début et même tout au long du 20e siècle, on va dire les classes supérieures essayent d'imposer cet ordre et cette régularité comme modèle du ménage bien tenu à l'ensemble de des classes sociales. Parce que le rythme alimentaire, il est aussi tributaire du rythme de la vie professionnelle et ça se voit particulièrement historiquement si on regarde les classes populaires. Et les repas des classes populaires, ils s'inscrivent dans la journée de travail. Donc par exemple, ils vont être soumis aux horaires de l'usine. Si les horaires de l'usine sont soumis aux horaires de la lumière du jour, comme c'était le cas avant que l'électricité ne se diffuse, eh bien, ça veut dire que les ouvriers n'ont pas les mêmes horaires de repas en été et en hiver, par exemple. Tout ça se normalise et s'institutionnalise donc progressivement au cours de plusieurs siècles d'histoire et aboutit au XXe siècle avec cette idée que c'est normal que tous les Français partagent à peu près le même rythme alimentaire. Et que nous faisons des efforts pour nous y conformer. Et le petit déjeuner, il est intéressant parce que c'est un peu le maillon faible de ce rythme alimentaire. Historiquement, c'est le dernier élément à se mettre en place. Et parce que justement, nous n'avons pas tous quand même les mêmes horaires de travail. Il y a des gens qui travaillent de nuit, il y a des gens qui travaillent plutôt le matin que d'autres, parce que nous avons nos enfants dans des écoles qui ont elles-mêmes des horaires un petit peu différents. Vous l'avez remarqué, si vous avez un enfant dans votre famille qui est à l'école primaire et l'autre qui est au collège, ils n'ont pas forcément les mêmes horaires, ça peut compliquer les choses. Et du coup, le petit déjeuner, c'est un peu le temps où les horaires contraints du travail, de l'école, etc., et le rythme alimentaire entre en conflit, se confronte et se négocie. Et du coup, pour revenir à mes fameuses enquêtes emploi du temps, ce qu'on voit dans cette enquête, c'est que la plage horaire sur laquelle les gens mangent le matin de façon vraiment significative, elle est plus large que pour le déjeuner et le dîner. C'est-à-dire que certaines personnes prennent leur petit déjeuner à 6h du matin et d'autres à 8h ou même à 9h. Y compris en semaine, par exemple, des étudiants qui n'auraient cours que à 11h et qui auraient le loisir de se lever plus tard. Donc, c'est pour ça que je trouve le petit déjeuner particulièrement intéressant d'un point de vue pour comprendre notre société.
Et est-ce que cette place du petit déjeuner est assez spécifique à la France quand on compare aux autres pays qui nous entourent, par exemple, en Europe ?
Alors ça, c'est assez difficile à dire parce qu'en fait, comme justement le petit déjeuner, oui, il a aussi ce statut particulier, c'est un peu un repas mineur. En fait, on n'est pas sûr si c'est vraiment un repas. Justement parce que sa fixité temporelle, elle n'est pas très nette. Parce qu'il y a des tas de gens qui, au petit déjeuner, ne prennent pas d'aliments solides. Et du coup, en fait, les sociologues, ils ont surtout comparer les pays autour du déjeuner et du dîner. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur pourquoi en Espagne, le déjeuner, il est à 15 heures. Donc, des comparaisons comme ça, elles portent plutôt sur le déjeuner et sur le dîner et elles portent beaucoup moins sur ce temps du petit déjeuner qui paraît, comme il apparaît, moins institutionnalisé, moins normalisé, il est plus difficile à comparer aussi. C'est-à-dire que déjà, pour comparer les petits déjeuners français et britanniques, il faudrait être vraiment sûr de ce que font les Français au petit déjeuner. Et ça, c'est déjà pas si évident. Donc, si vous avez été en vacances en Espagne, vous avez dû remarquer que ce rythme, il nous perturbe. On a faim à midi, à 15h, on n'a pas faim, et le soir, des fois, on aimerait bien aller se coucher. Sachez que nos concitoyens européens danois, par exemple, ils souffrent aussi beaucoup quand ils viennent en France, parce que en fait, ils ont l'habitude de dîner à 18h et d'aller se coucher à 19h, 19h30. Donc, s'ils viennent nous rendre visite, par exemple, pour une conférence internationale, des réunions de travail, et qu'on les emmène au restaurant à 20h, 20h30, on les met dans une situation assez délicate. Les Anglo-Saxons mangent aussi plutôt que nous. Aux États-Unis, si on regarde les enquêtes emploi du temps, les Américains passent à table au plus tard à 18h, 18h30, et donc ils se couchent plutôt que nous. Et l'Espagne, c'est l'inverse. C'est eux qui sont le pays couche-tard bien connu. La meilleure explication que j'ai entendue à ces repas tardifs en Espagne, ça n'a rien à voir avec le climat qu'on pourrait le penser, mais celle qui me paraît la plus convaincante, elle fait référence en fait à la période de l'histoire franquiste en Espagne. Donc vous le savez peut-être, la dictature du général Franco qui commence en 1936 et qui se termine en 75 de mémoire à la mort du général, elle s'est beaucoup appuyée sur l'armée, sur les militaires. Mais Franco n'avait pas forcément les moyens de donner des payes mirobolantes au personnel militaire. Donc, l'armée espagnole avait organisé la journée de travail de la manière suivante. Les militaires faisaient leur travail de militaires. Alors, ça pouvait être des militaires dans des bureaux, hein, mais en tout cas, voilà. Les gens qui travaillaient pour l'armée faisaient leur travail pour l'armée jusqu'à 15 heures. À 15 heures, ils rentraient à la maison. Leur femme avait préparé à manger. Ils mangeaient. Et là, ils avaient le droit d'avoir un deuxième emploi qui leur apportait un complément de revenus. Et donc, cette double journée leur permettait de vivre confortablement tout en étant de fidèles membres de l'armée ou, on va dire, de l'appareil militaire franquiste au service du pouvoir. Et ça, c'est resté. Cette habitude, elle est restée. Parce que après, qu'est-ce qui se passe? Quand un rythme comme ça commence à se diffuser dans la société, eh bien, tout un tas d'institutions peuvent venir en renfort. Et donc, typiquement en Espagne, les horaires de l'école, elles sont aussi calées sur ce déjeuner plus tardif. En France, vous avez dû remarquer que nos cantines scolaires, elles sont extrêmement centrées sur la pause méridienne autour de midi, midi et demi. Et quand on commence à faire plusieurs services parce que la cantine est trop petite ou le self est trop petit, les enfants sont... On trouve que c'est quand même moins bien que nos enfants déjeunent à 11h30 ou à 13h. Ce serait quand même mieux qu'ils mangent à midi et demi. Et du coup, les cantines, elles continuent à renforcer cette institution du rythme alimentaire.
Donc tout dans la société se greffe finalement à cette première ossature instauré par le travail, que ce soit en Espagne ou, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en France. Finalement, le fait de prendre son petit déjeuner ou pas, ça dépend peut-être aussi très largement de si on va au travail, à quelle heure et comment. Qu'est-ce que vous avez pu observer dans votre enquête qualitative sur le moment du petit déjeuner à propos de finalement l'influence du travail de vos personnes interrogées sur le moment du petit déjeuner?
Dans notre enquête, on a fait le choix avec ma collègue Marie-Clémence Lepape de cibler des personnes, des ménages dont les horaires professionnels sont soumis à des contraintes, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas en position de décider de leurs horaires de travail. Donc typiquement, on sait qu'un certain nombre de cadres supérieurs travaillent à la journée et bon, bien sûr, s'ils ont une réunion, il faut qu'ils soient à l'heure pour leur réunion, mais ils n'ont pas forcément des horaires de travail, ils ne vont pas forcément pointer. Et nous, on s'est intéressé, on va dire, aux franges supérieures des classes populaires au sens large, donc des gens qui sont dans des positions un petit peu subalternes et qui, du coup, se font imposer leurs horaires par leur employeur ou leur supérieur hiérarchique. On a aussi, dans notre enquête, des commerçants qui sont à la tête de petits commerces de province et qui ont de très longs horaires de travail avec souvent, enfin, dans les qu'à enquêter des personnes dont le logement est tout près du commerce, mais il n'empêche que le commerce prend énormément de temps dans la journée familiale. Et ce qu'on voit dans ces familles, c'est que en fait, il y a un peu un conflit entre les contraintes du travail et la volonté de se conformer au rythme alimentaire normal. Et non seulement au rythme, mais aux normes un peu plus larges qui englobent le petit déjeuner, en particulier quand on parle des enfants. C'est-à-dire que tous nos enquêtés, en particulier nos enquêtés ES, nos mères enquêtées, puisqu'on a ciblé des ménages avec enfants, tous nos enquêtés estiment que c'est très important que leur enfant prenne le petit déjeuner. Et en cela, ils se conforment à la norme qui leur est répétée, par exemple, par les maîtresses d'école, par le personnel des crèches quand leurs enfants étaient tout petits, que c'est très important qu'un enfant mange quelque chose avant d'aller à l'école ou dans un système de garde. Et non seulement c'est important qu'il mange, mais il apparaît dans l'enquête qu'aux yeux de nos enquêtés, c'est très important que cet enfant mange dans un cadre familial. C'est-à-dire en présence idéalement de leur mère ou de leur père. Or, vu la population que nous avons choisi d'enquêter, il y a un certain nombre de ménages où ce n'est pas possible. Par exemple, nous avons eu des enquêtés qui sont séparés de leur conjoint et qui ont leur travail qui commence très tôt. Ou alors, des enquêtés dont le travail commence très tôt et le père n'est pas disponible parce que, ben, par exemple, on a une enquêtée qui est boulangère avec son mari boulanger. Le mari, le matin, il est en train de finir de faire le pain et elle ouvre la boulangerie et elle tient la caisse. Et ben, ces ménages, ils se mettent en quatre pour faire en sorte que leurs enfants puissent prendre leur petit déjeuner dans un cadre aussi familial que possible. Donc, par exemple, l'enquêtée qui est boulangère, elle confie le petit déjeuner des plus jeunes enfants à ses enfants aînés et elle téléphone depuis la boulangerie. Elle téléphone dans son appartement pour vérifier que tout se passe bien. Une autre enquêtée qui est donc séparée de son conjoint, elle dépose son fils tous les matins chez ses parents pour qu'il puisse prendre le petit déjeuner, donc l'enfant, avec les grands-parents. Et de cette façon, l'enfant n'est pas seul parce qu'elle, elle travaille loin et donc elle est obligée de partir trop tôt pour pouvoir nourrir son enfant avant l'école. Et donc, les ménages, ils mobilisent leur réseau familial énormément. Et s'ils n'ont pas de ressources familial à mobiliser pour ainsi offrir ce cadre familial de petit déjeuner, eh bien, ils culpabilisent. Ils en souffrent, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vivent très mal le fait d'être écartés de la norme, même si c'est en dépit de leur plein gré. Mais ce qui est en jeu, c'est pas forcément la convivialité et le partage. Parce que, par exemple, un certain nombre des parents assistent au petit déjeuner de leur enfant, mais sans nécessairement être assis à table avec eux. Par exemple, une mère nous dit que donc ses enfants prennent leur petit déjeuner à table, mangent quelque chose de solide, parce que c'est ça qui fait le petit déjeuner des enfants, tandis que elle, qui n'a jamais rien pu manger de solide au petit déjeuner, elle boit un café appuyée contre le plan de travail de la cuisine, donc un peu en retrait. Elle assiste au petit déjeuner de ses enfants, mais elle n'y participe pas directement, si vous voyez ce que je veux dire. Elle n'est pas assise à table avec eux. Ce qui est important, c'est qu'elle est là, elle est présente, elle veille au respect des normes, et ses enfants ne sont pas seuls chez eux le matin. On voit aussi dans cet exemple que il y a des normes différentes sur les petits déjeuners des parents et des enfants. Pour nos enquêtés, tous sont d'accord pour dire que les enfants, ils doivent manger quelque chose le matin. C'est-à-dire, ils peuvent pas se contenter de juste une boisson. Il faut qu'ils mangent. Alors, ça peut être des céréales, ça peut être des tartines, ça peut être des viennoiseries, en général, des viennoiseries achetées dans un supermarché. Mais il faut qu'ils aient quelque chose de solide. Et pour les parents, il y a plusieurs normes. Les parents des classes populaires en particulier, le modèle de un café souvent sucré, qui peut être avalé à la va-vite, parce que les parents ont plein de choses à faire le matin, il est tout à fait acceptable dans la classe populaire. Elles savent que ce modèle, il n'est pas conforme aux normes dominantes, aux normes des classes supérieures, qui voudraient qu'on s'assoie, qu'on mange tous des tartines ou un autre aliment solide, etc., etc. Mais c'est un modèle qui est très répandu et qui permet de faire face à toutes ces contraintes qui viennent s'empiler le matin, préparer les enfants pour l'école, être à l'heure au travail et que la maison soit à peu près propre et rangée quand même quand on part au travail.
Donc finalement, c'est plus une histoire, donc pas de convivialité, de moment familial, mais de responsabilité, veiller à ce que donc la norme soit respectée et du coup avoir cette bonne conscience que les choses sont faites comme elles se doivent d'être faites, donc que l'enfant parte avec quelque chose dans le ventre aussi, parce qu'on nous dit souvent que si un enfant manque d'énergie au cours de sa matinée, il y a un moment il va avoir le petit creux qui va l'empêcher de rester concentré jusqu'à la pause de la cantine.
Oui, tout à fait. C'est une question de se présenter comme un bon parent qui est à la tête d'un ménage ordonné, organisé et respectable. En fait, c'est une question de respectabilité au sens le plus noble du terme pour nos enquêtés qui sont dans des positions sociales relativement modestes quand même, qui souvent peuvent tirer peu de fierté de leur vie professionnelle. Hein, quand on est, journaliste ou chercheur, on peut se dire qu'on a un métier qui a un certain prestige, mais quand on fait l'entretien dans un hôtel, quand on est surveillante dans un collège, on a peu de perspectives d'évolution de carrière et on n'a pas un métier dont on puisse tirer un grand prestige. Donc, on va tirer l'essentiel de son prestige de bien accomplir son travail de mère. Et c'est particulièrement vrai pour les mères, puisqu'il y a la société met énormément de poids sur les femmes qui ont des enfants, sur la façon dont elles tiennent leur ménage et dont elles s'occupent de leurs enfants. On voit dans nos enquêtes que les pères, même si beaucoup s'impliquent, s'occupent de leurs enfants, ils n'ont pas la même pression, si j'ose dire. Et d'ailleurs, quand l'école estime effectivement que l'enfant n'est pas concentré, mais est-ce que vous le couchez assez tôt, est-ce qu'il mange le matin, c'est à la mère qu'on va s'adresser. Et les mères le vivent souvent comme un rappel à la règle, un rappel à la norme de comment elles devraient s'occuper de leurs enfants.
J'aimerais qu'on revienne sur la distinction entre choses comestibles et juste liquides à ingérer le matin. À quel point, du coup, les personnes que vous avez interrogées se contentent d'un café et se disent que c'est parce que vraiment ce café, c'est ce qu'il leur faut, ou est-ce que c'est aussi faute de temps qu'il n'y a pas forcément le moment où les gens s'attablent et mangent quelque chose?
Ça, c'est assez intéressant. Il y a un peu une énigme. C'est dans nos enquêtés. Et dans votre entourage, sans doute, vous avez déjà entendu ça. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, il faut absolument que je mange le matin. C'est pas possible de commencer la journée sans avoir mangé quelque chose. Je suis incapable de rien faire. Et puis, de toute façon, je suis infecte. Il me faut de la nourriture. C'est biologique. C'est mon corps qui le réclame. » Et à l'inverse, on connaît tous des gens qui sont incapables de rien avaler le matin, qui disent « moi, je ne peux rien manger, ça me met malade, ça me donne la nausée, voilà. » Très peu de gens ne prennent vraiment rien. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne prennent rien, mais quand on insiste un peu, ils boivent un verre d'eau ou alors justement, très souvent, un café sucré. Il me semble que ce modèle du café sucré, c'est le modèle, on pourrait dire, propre aux classes populaires du matin. Celui qui leur permet de faire face à leurs multiples contraintes professionnelles, les horaires des écoles des enfants et domestiques, hein, de laisser la maison en ordre. Et ça apparaît, à mon avis, j'ai trois raisons pour penser ça. La première, c'est que parmi mes enquêtés, je vois que celles et ceux qui ont acquis cette habitude, c'est souvent des gens qui ont des horaires vraiment très contraints le matin. Par exemple, une enquêtée qui travaille dans une maison de retraite et qui commence donc souvent son travail très tôt, à 7 heures, et qui tient à ce que son ménage soit impeccable. Donc en fait, elle se lève à 5h30, elle commence par faire du ménage, elle fait les poussières, elle passe l'aspirateur, elle boit son café à un moment dans sa matinée, et ensuite elle part au travail. Et quand on interroge cette enquêtée sur son enfance, on s'aperçoit qu'elle s'est énormément... Alors elle nous dit, moi je ne peux rien avaler le matin, c'est pas possible, c'est une habitude, c'est comme ça, depuis que je suis enfant c'est pareil, il n'y a pas moyen. Et ben, quand on l'interroge sur son enfance, on s'aperçoit qu'elle était l'aînée d'une famille, d'une fratrie, et qu'elle s'est énormément occupée de ses petits frères et sœurs. Elle nous dit, mon petit frère, je l'ai élevé toute seule, et j'avais 10 ans. Donc en fait, elle a toujours, depuis son enfance, elle est dans cette situation le matin, où le matin, c'est la course pour elle. Elle a énormément de responsabilités, et donc le petit déjeuner passe à la seconde. J'ai une autre raison de penser que ce modèle, il est propre aux classes populaires, c'est que dans les années 1900, Frédéric Le Play, qui était un savant français, a fait réaliser des monographies de très nombreuses familles en France et ensuite dans toute l'Europe. Et quand on lit les monographies de familles populaires, ouvrières, on voit beaucoup de personnes qui partent de chez elles en ayant mangé, je cite, une croûte de pain, un verre de vin et une croûte de pain, ou qui partaient de chez elles sans avoir mangé et qui, sur le trajet du travail, souvent effectué à pied, s'arrêtaient dans un troquet pour boire un café et éventuellement manger quelque chose. Mais donc cette idée de partir de chez soi en ayant presque rien mangé ou un petit reste de la veille, me semble ancré depuis longtemps dans l'histoire des classes populaires.
Et finalement, si on ne doit garder plus qu'un élément du petit déjeuner, parce qu'on n'a plus le temps de s'attabler ou que de toute façon on l'a jamais fait, le café, finalement, dans tout ça, a l'avantage aussi d'être un rituel. Il y a le moment où on le lance, on peut le lancer et ensuite continuer à se préparer dans la salle de bain. Il y a tout de même l'odeur, un minimum, en fait, les effluves du café. Et puis, il y a aussi les propriétés du café. Donc, ça nous met en jambes, ça nous booste un peu. Donc, finalement, ça permet quand même de remplir un certain nombre d'éléments dans le cahier des charges pour démarrer une journée.
Le côté rituel, il est très important. Il est très rassurant. Des sociologues et des psychologues estiment que si on a des routines, des rituels, c'est parce que ça nous libère du temps de cerveau pour faire autre chose, penser à autre chose. Donc le matin, on n'a pas forcément envie de penser à autre chose, mais au moins, si on n'a pas à réfléchir à ce qu'on va faire tous les matins, imaginez si vous deviez réinventer votre petit déjeuner tous les matins, ça pourrait presque nous peser, en fait. Le côté routine, rituel, hein, le rituel ayant en plus une charge, on va dire, un peu symbolique, que la routine n'a pas nécessairement. Clairement, il nous aide, et il nous aide à tenir ce rythme alimentaire et social dont je vous parlais au début de notre discussion. Et quant aux propriétés du café, des historiens ont décrit le café au 19e siècle comme le Red Bull du pauvre. C'est-à-dire que le café sucré, c'est de l'énergie pas chère, quoi. Et avec en plus le côté un peu excitant. Alors aujourd'hui, les budgets alimentaires sont quand même beaucoup moins contraints qu'ils n'ont pu l'être au 19e siècle. Très peu de ménages sont à ce point contraints sur leur budget qu'ils ne pourraient pas s'offrir autre chose que du café et du sucre au petit déjeuner. Mais il n'en reste pas moins que le petit déjeuner joue ce rôle de, sans doute, de réveiller le corps et l'esprit le matin.
Et comme disait Honoré de Balzac, le café est un excitant moderne, au même titre que le thé, le tabac, le sucre, l'alcool. Donc finalement, cette image un peu rêvée qu'on voit souvent dans les publicités, de la table sur laquelle il y a du beurre, du jus d'orange frais, du café, du thé, des tartines, toute la famille autour de cette table, est-ce que c'est quelque chose que les Français et Françaises font si souvent que ça ?
Alors, c'est clairement quelque chose à quoi ils aspirent. C'est-à-dire que ces publicités qu'on voit, par exemple, elles continuent d'ailleurs à renforcer ce modèle du petit déjeuner familial que la plupart des gens ne peuvent pas vivre au quotidien parce que, comme je vous l'ai dit, il y a de multiples contraintes qui pèsent sur le petit déjeuner. Mais que, par exemple, beaucoup vont essayer de recréer le week-end. Donc, le samedi ou le dimanche, en fonction de comment on organise les activités du week-end, un certain nombre de nos enquêtés s'efforcent de prendre un petit déjeuner un peu plus long, pour le coup plus convivial, c'est-à-dire avec plus de discussions, d'échanges autour de la table, avec plus de produits différents éventuellement sortis. Donc, on va sortir de la routine, par exemple, peut-être acheter des viennoiseries, des choses comme ça, pour se rapprocher de cette image du petit déjeuner en famille, sur une table plutôt agréablement dressée avec les produits divers produits offerts à consommer. Alors ça marche plus ou moins bien, hein, parce que même le week-end, tout le monde n'a pas forcément les mêmes horaires, mais c'est une aspiration qu'on voit régulièrement raviver le week-end dans beaucoup de familles.
Et puis oui, c'est vrai, comme vous dites, on n'a pas forcément le même rythme le week-end. Quand on a des ados, des pré-ados, peut-être qu'ils ont besoin d'un peu plus de sommeil, donc ça peut être du coup pas forcément évident de réunir tout le monde à la même heure autour d'une table.
Absolument. Et le simple fait qu'on regrette que l'ado n'ait pas participé au déjeuner familial, ça montre bien que la norme, elle est toujours là.
Il y a quelque chose d'assez plaisant avec le petit déjeuner par rapport aux autres repas. En tout cas, en France, quand on déjeune ou quand on dîne, en général, c'est un même plat et c'est servi à l'assiette. Le petit déjeuner, c'est quand même le moment où on s'active en même temps qu'on mange. Chacun peut choisir de manger soit un bol de céréales, soit un yaourt en plus. Il y a quelque chose un peu de l'ordre de la dînette aussi, puisque il y a différentes façons de prendre son petit déjeuner.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans une même famille, on peut avoir un petit déjeuner beaucoup plus à la carte que le repas du soir ou du midi. Ce qui est intéressant, c'est que l'aspect préparation et l'aspect consommation sont beaucoup moins séparés que pour les autres repas. Hein. Pour les autres repas, en général, quelqu'un a cuisiné, quelqu'un a mis la table, éventuellement les enfants, et ensuite on arrête de préparer et on mange. Bon, ça c'est dans l'idéal, hein. Ça dépend aussi de ce qu'on a choisi de cuisiner. Des fois il faut retourner à la cuisine pour finir de réchauffer avant de servir. Et le petit déjeuner aujourd'hui c'est plus du tout ça. C'est plutôt chacun ouvre le frigo et prend ce dont il a envie. Je pense que là ce qu'on voit c'est comment le petit déjeuner permet aussi de contraster avec les autres repas. Et du coup, de mettre en valeur toutes les règles qui entourent le déjeuner et le petit déjeuner. C'est-à-dire que donc le petit déjeuner n'a pas d'horaire imposé, les repas en ont. Le petit déjeuner est peu cuisiné, les autres repas sont plutôt cuisinés. Le petit déjeuner, on n'est pas obligé de manger tous la même chose. Les autres repas, la norme, c'est qu'on devrait tous manger la même chose. Le petit déjeuner n'est pas forcément pris à table. Les autres repas devraient être pris à table, etc., etc. Donc, en fait, le petit déjeuner, justement parce qu'il est, il est institutionnalisé comme le repas qui est pas comme les autres. Et du coup, il met en valeur le côté très structuré et très prescrit des autres repas.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le petit déjeuner ailleurs dans le monde? En termes de composition, sucré, salé.
Ah, c'est extrêmement varié. C'est extrêmement varié. Il y a beaucoup de sociétés où les produits du petit déjeuner ne sont pas spécifiques. Par exemple, on va pouvoir manger de la soupe ou du riz. Alors j'avais regardé ça, mais c'était il y a longtemps, donc je me souviens plus du tout de ce que j'avais regardé. On imagine souvent que le petit déjeuner britannique typique, c'est les œufs au bacon. En fait, il semblerait que ce soit plutôt les céréales. Donc, typiquement, le porridge, qui est une bouillie de céréales cuites, ou aujourd'hui, les céréales pour petit déjeuner. L'idée qu'on doit manger sucré le matin, elle n'est pas si évidente que ça. Elle est très ancrée en France. On a très peu de Français qui mangent des produits salés le matin, au petit déjeuner spécifiquement, alors qu'il y a des tas de pays où ce n'est pas particulièrement le cas.
D'ailleurs, personnellement, le fait de rendre un petit déjeuner exceptionnel, donc le week-end par exemple, chez moi ça va revenir à du coup introduire le salé, un peu comme si c'était un moment du coup plus festif ou justement différent des petits déjeuners de la semaine.
Oui, tout à fait. Là encore, on joue sur la règle, enfin sur la norme. On se décale un petit peu par rapport à la norme. Éventuellement, c'est un petit côté exotique aussi parce qu'on se dit qu'on fait un petit déjeuner british si on fait cuire des œufs au plat. Du coup, ça donne du relief à ce petit déjeuner-là. Il n'est plus comme les autres. Et il peut devenir un moment moment important. Par exemple, le fait que vous aviez des invités qui avaient dormi à la maison cette nuit-là et le lendemain matin, vous faites ce petit déjeuner exceptionnel.
Je trouve super intéressant ce que Marie Place dit à propos de la rupture dans la continuité que peut devenir le petit déjeuner hors temps de travail. Ce petit déjeuner qui peut se transformer en brunch le week-end parce qu'on a le luxe de pouvoir dormir plus longtemps, puis traîner à table par exemple. Il me semble également que le petit déjeuner est un moment qui peut évoluer au cours de la vie. Alors que je n'y tenais pas particulièrement lorsque j'étais plus jeune, j'apprécie aujourd'hui me lever un peu plus tôt pour réellement avoir le temps de prendre le petit déjeuner à table. C'est un petit moment calme, juste pour moi, avant le début de la journée, et je m'aperçois que me l'octroyer a une réelle incidence sur mon humeur générale. Pour en savoir plus sur le petit déjeuner, retrouvez l'article de Marie Pless, coécrit avec Marie-Clémence Lepape. C'est l'heure du petit déjeuner, rythme des repas, incorporation et classe sociale, à retrouver dans la revue L'année sociologique en 2017. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et de Donia Wahada. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.